Et dans Vue de France, on revient avec Marc Nobel sur une semaine très chargée à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. De nombreuses voix, dont celle de Caroline Yadan, la députée des Français de l'étranger, la voix de Caroline Yadan s'est élevée également contre la flambée de l'antisémitisme dans le monde entier et aussi jusqu'au sein même de l'Assemblée nationale française. On écoute Marc Nobel, il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Marc Nobel.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes historien, chercheur associé à l'Institut Jonatas de Bruxelles depuis récemment, d'après ce que j'ai compris. Alors aujourd'hui, on aimerait évoquer plusieurs sujets avec vous, si vous le voulez bien. Tout d'abord, on aimerait évoquer avec vous les commémorations de la Journée internationale de la Shoah en début de semaine, 80 ans après la libération d'Auschwitz, qui ont tout de même donné lieu à une recrudescence d'actes antisémites dans le monde entier et même en Israël. Alors, comment l'expliquer ?
Avant de répondre à votre question, une petite discrétion. J'ai rejoint en tant que chercheur associé l'Institut Jonatas, qui est placé sous l'autorité du professeur Joël Kotek, et je veux dire ici le travail remarquable qui est fait par cet institut depuis sa création, c'est-à-dire un an pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés, l'antisémitisme, le négationnisme sous toutes ses formes. Et moi qui suis français, c'est pour moi un honneur que de les aider en tant que tel. Je n'ai pas besoin d'élargir plus mon propos, sinon que de rappeler qu'en Belgique, la situation est on ne peut plus grave pour la communauté juive. Maintenant, je réponds à votre question. Ce que moi je retiens du 80e anniversaire, vous savez, je n'aime pas trop le mot libération parce qu'en vérité, les Russes ont découvert le camp d'Auschwitz. Ils ne venaient pas forcément pour le libérer. Donc, à l'occasion de ce 80e anniversaire, nous avons eu un moment extrêmement important et très solennel, qui est absolument unique et qui restera dans l'histoire. Il y avait eu précédemment un autre moment qui avait marqué les consciences. C'était quand le chancelier Willy Brandt, en 1970, s'était agenouillé devant le monument des héros et des combattants du ghetto de Varsovie. Et là, ce que nous avons eu cette fois-ci, c'est tous ces chefs d'État qui se mettent en retrait de 54 pays. Aucun ne prend la parole. Tous écoutent ce que des déportés qui sont toutes et tous très âgés, dépassent les 80 ans, les 95 ans. Pensez à M. Ventroub, qui a été le dernier déporté à prendre la parole. Il avait 99 ans et qui écoute ce que eux ont à leur dire. Non seulement en ce qui concerne l'histoire, leur propre histoire, ce qu'ils ont vécu à Auschwitz, comment ils ont survécu, ce qu'ils ont vu et la souffrance qui est la leur, mais aussi l'appel à prendre conscience que l'antisémitisme aujourd'hui se développe dans énormément de pays, pas seulement depuis le 7 octobre, par exemple pour la France depuis l'année 2000, et que ce déchaînement antisémite constitue une menace en réalité pour chacun de nos pays, pour la démocratie en tant que telle, pour la République française en France, mais aussi pour le Royaume de Belgique en Belgique. Quant à l'antisémitisme, malgré le fait que cette cérémonie ait lieu, bien évidemment qu'il se nourrit de tout ce dont il peut se nourrir, et en premier lieu, le conflit entre Israël, le Hamas et le Hezbollah. Comme le disait le philosophe Vladimir Jankélévitch, l'antisionisme est une aubaine pour les antisémites qui se donnent de fait le droit et même le devoir de devenir antisémites au nom de leur défense de la cause palestinienne.
Oui, et d'ailleurs, Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger, elle a dénoncé cette flambée de l'antisémitisme hier à l'Assemblée nationale. Elle a aussi accusé le parti d'extrême gauche LFI, la France insoumise, d'exalter cette bête immonde. C'est comme ça qu'elle a qualifié la flambée de l'antisémitisme. Comment expliquer que le conflit israélo-palestinien soit un véritable fer de lance pour ce parti-là ? Est-ce que ça reflète vraiment les préoccupations de l'électorat français ? Pourquoi instrumentaliser ce conflit ?
Je dirais plusieurs choses. D'abord, Caroline Yadan a beaucoup de courage et hier, avec les mots qui sont les siens, elle a voulu dénoncer quelque chose qui lui est insupportable sous les hurlements des députés de la France insoumise qui quittaient l'hémicycle. Bon, on ne s'attendait pas à moins de leur part. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est tenter d'expliquer ce positionnement. Alors, moi, j'ai regardé de nombreuses séquences vidéo où Mélenchon est devant son public, il donne des allocutions, va de tribune en tribune invité par les militants ou les dirigeants de la France insoumise, quelquefois dans des universités, dans des salles et ainsi de suite. Et là, il galvanise son public. C'est-à-dire quand il parle de ce sujet, que fait-il ? Il présente, d'abord il dénonce les accusations qui sont portées contre lui-même et son mouvement politique, des accusations qui visent à les taxer d'antisémites, et il dit s'y opposer, malgré l'évidence. Et en plus, il dit aux gens, vous êtes des résistants. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est que vous parliez de la Palestine et que vous dénonciez, dit-il, je le cite, le génocide en cours à Gaza. En fait, il fidélise sa militance autour de cet axiome qu'est la lutte pour la cause palestinienne, et l'accusation qu'il dresse de génocide à l'encontre des Gazaouis. Quand des gens dans ces meetings viennent protester, comme le collectif Nous vivrons ici en France, il les accuse d'être, je le cite, les amis du génocide. En fait, il oppose le nous, c'est-à-dire les militants de la France insoumise, les sympathisants et les électeurs de la France insoumise qui seraient des résistants, qui diraient les bonnes choses, qui révéleraient la vérité, la réalité, qui combattraient pour les Palestiniens et qui dénonceraient le génocide, à tous les autres qui sont complices de ce génocide. Donc on est vraiment dans l'interface du et du nous. Et il y a une autre raison, il y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est que tout ce qui est israélien ne lui plaît pas, il le déteste, il le dénonce. Il ne s'agit pas dans son esprit simplement de critiquer une politique et un gouvernement, il s'agit de dénoncer Israël en tant qu'État, en tant que tel, avec peut-être une arrière-pensée, hein, espérer que cet État disparaisse. Trois, enfin, il s'adresse à un électorat, et notamment à un électorat de Français de confession musulmane. Je veux rappeler ici que pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, un sondage avait été publié et qui révélait que 67% des Français de confession musulmane avaient voté au premier tour pour lui. Or, dans la tête de Mélenchon, il lui a manqué notamment l'électorat des jeunes et des banlieues. Et c'est aussi pour cela qu'il s'adresse aux jeunes et aux banlieues, et aux jeunes de banlieue, mais pas seulement de banlieue, mais aux jeunes, parce que dans sa tête, c'est tout gagnant. En fait, il exclut bon nombre d'électorats, il sait que c'est peine perdue, mais par contre, il espère capitaliser avec le vote des Français de confession musulmane et le vote des jeunes.
Alors, c'est quand même une vision assez manichéenne de la société, et on a peine à imaginer que ça puisse quand même séduire par exemple les élites françaises, et surtout que ce soit quand même des prises de position qui soient relativement condamnables en tant qu'élus de la République même. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été avancées par le gouvernement français pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui ?
En fait, Mélenchon est un homme très cultivé. Je crois qu'il a une vraie stratégie politique. Et aujourd'hui, la stratégie politique qui est la sienne, c'est le bruit et la fureur. Capitaliser sur la souffrance des gens pour arriver au second tour de la prochaine élection présidentielle, parce qu'il pense qu'il sera opposé à Marine Le Pen et qu'il gagnera l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons en France un arsenal juridique qui est assez important, en Europe. Mais il y a entre les lois existantes et la manière dont on, on, dont elles sont à appliquer une grande marge. Par exemple, nous savons combien d'actes antisémites ont été perpétrés en 2024, 1570. Nous savons combien d'actes antisémites ont été perpétrés en 2023, 1676. Mais nous ne savons pas combien de plaintes ont été déposées, et quand des plaintes ont été déposées ou des mains courantes ont été déposées dans les commissariats ou les casernes de gendarmerie, ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire combien de personnes auraient été déférées devant un tribunal, si ces personnes ont été condamnées et à quelle peine, étant entendu que la peine peut être dissuasive. Une peine, si elle n'est pas dissuasive, elle ne sert à rien. Donc nous n'avons pas d'indication. La justice est très lente, mais en plus, la classe politique condamne l'antisémitisme, et c'est fort bien qu'elle le fasse, mais nous n'avons pas de vision holistique de la manière de lutter contre l'antisémitisme. Pour lutter contre l'antisémitisme, les mots ne suffisent plus. Il faut que la justice soit ferme, il faut que l'éducation fasse son travail, que les profs puissent faire leur travail et enseignent, par exemple, la Shoah, mais pas seulement dans les écoles, par exemple, car l'éducation a un énorme potentiel et une grande responsabilité en la matière. Il faut également sécuriser, et il faut prendre en compte surtout le fait que si l'antisémitisme concerne les Français de confession juive en France ou les Belges de confession juive en Belgique, il concerne l'ensemble de notre société. Or, ce que nous avons, c'est quand même une relative indifférence. Comme l'antisémitisme affecte notre démocratie et met en danger notre démocratie, il importe que les gens se mobilisent. Or, malheureusement, les gens ne se mobilisent pas assez.
Eh bien, on continuera en tout cas de parler de ces questions avec vous, Marc Nobel. Je rappelle que vous êtes historien et chercheur associé à l'Institut Jonatas de Bruxelles, ce qui va, je l'espère, nous donner l'occasion de collaborer encore plus à l'avenir. Merci beaucoup pour votre éclairage et à bientôt.
À bientôt.
Marc Nobel, entre autres, auteur d'un livre intitulé « Cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet ». Il remet tous les ans d'ailleurs une étude sur le racisme sur Internet au Premier ministre de France, si je ne m'abuse.